6h vous est présenté par Céline Kalman. Bonjour Céline.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une.
12 enfants de djihadistes français rapatriés hier de Syrie sont arrivés à Villacoublay dans les Yvelines. Le chauffard qui a tué un garçon de 10 ans à Lorient dimanche, toujours recherché par la police, on connaît désormais son identité. Les relations se tendent un peu plus entre Renault et Nissan. Renault qui menace de bloquer une réforme de la gouvernance de l'entreprise japonaise. Et puis le journal des sports de Jérôme Lacroix dans quelques minutes avec à la une la fin de carrière de Tony Parker, mais aussi les footballeurs qui jouent ce soir en Andorre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. 12 enfants dont 10 orphelins français ont été rapatriés hier à Villacoublay. Un peu plus tôt, des responsables kurdes du nord-est de la Syrie les ont remis dans les mains d'une délégation du ministère des Affaires étrangères. Tous vivaient dans des camps, dans des conditions très difficiles. Parmi eux, un frère et une sœur de 3 et 9 ans dont la mère a accepté de les laisser partir, de les laisser rentrer. Les proches espèrent maintenant obtenir leur garde. Ils sont originaires de la région de Lunel dans l'Hérault. Le reportage de Benjamin Peter.
L'aîné n'avait que 5 ans quand Saïda, sa maman, est partie épouser Yassine Sakam, un djihadiste originaire de Lunel, exécuté en Irak à la fin du mois de mai. Les oncles, les grands-parents, des enfants avaient porté plainte pour enlèvement. Pour maître Sophie Mazas, l'avocate de la famille, ça fait de longs mois que Saïda espérait que ses enfants rentrent en France.
Ça fait un an et demi qu'elle a accepté, elle a toujours persévéré dans cette voie. C'est un sacrifice, effectivement. Ça va être très dur là-bas pour elle, mais elle ne voulait pas que ses enfants payent pour ses erreurs. Elle sait qu'en France, ils seront bien. C'est un gros soulagement. Et maintenant, ce qu'espèrent les enfants, c'est pouvoir rentrer chez eux pour l'aîné qui a vécu au quotidien avec ses grands-parents. C'est revoir papy, mamie, tonton, retrouver mes copines et mon vélo et oublier la guerre. Avec l'aide qu'il faudra mettre autour, bien sûr.
Ce choix de laisser partir ses enfants, seuls, est lourd de conséquences. Dans le camp de Roge, où ils étaient détenus depuis plusieurs semaines, cette famille était la cible de jets de pierre. Et maintenant que les enfants sont partis, beaucoup redoutent des représailles contre Saïda. Les enfants, eux, vont d'abord être confiés à l'aide sociale à l'enfance, avant que la justice décide de leur garde. Montpellier, Benjamin Peter, Europe.
Près de 48 heures maintenant qu'un jeune homme de 20 ans est recherché par la police, après avoir renversé deux garçons au volant de sa voiture à Lorient, voulant échapper à un contrôle. L'un des enfants, âgé de 10 ans, est décédé, l'autre grièvement blessé. Des élus seront présents ce matin à l'entrée de l'école où étaient scolarisés les deux enfants. Une cellule psychologique va être mise en place. Précisons que le chauffard a été identifié. Une jeune femme de 21 ans qui l'accompagnait est aussi recherchée. Emmanuel Macron présidera après-demain une cérémonie au Sable d'Olonne pour rendre hommage aux 3 sauveteurs bénévoles morts noyés lors d'une intervention. 15 000 personnes leur ont rendu hommage hier dans la ville. Dans l'actualité également de ce mardi, la mobilisation se poursuit pour les personnels des hôpitaux. 90 services d'urgence sont désormais en grève à travers tout le pays. Les syndicats promettent une très forte mobilisation dans la capitale. Entre 1,7 et près de 4,5 milliards d'euros, le trou de la Sécu va encore se creuser cette année, selon la Commission des comptes. Conséquence notamment du ralentissement économique et des concessions faites aux Gilets jaunes.
Rien ne va plus entre Renault et Nissan.
Oui, après l'affaire Ghosn, après le mariage raté avec Fiat, c'est désormais la future gouvernance de Nissan qui met les nerfs des deux partenaires à rude épreuve. Emmanuel Dutheil.
Oui, c'est très tendu en ce moment et oui, il y a des divergences très fortes dans le camp Renault. On ne cache pas son énervement. Le problème, c'est la répartition des postes pour la future gouvernance de Nissan, une nouvelle organisation mise en place après l'affaire Ghosn. Et chez Renault, on voit finalement les choses assez simplement. On a 43% du capital, c'est normal que nous soyons représentés en fonction de notre poids. Mais chez Nissan, on ne l'entend pas du tout de cette oreille. On en a marre d'être un petit peu trop encadré par le cousin français. Du côté de l'État français, justement, on tente d'apaiser les tensions. Bruno Le Maire a rencontré hier matin son homologue à Tokyo et ils ont rappelé leur attachement à l'Alliance. Mais ça, c'est du langage diplomatique. Il y a bien en ce moment des négociations dans chaque camp pour pousser ses pions. On ne divorce pas encore, mais oui, ce sont des négociations dures, reconnaît une autre source qui se veut assez fataliste. Nous sommes le premier actionnaire de Nissan. Ce serait quand même assez compliqué de nous dire que nous n'avons pas raison.
Emmanuel Dutheil pour Europe 1. Des parents et une association saisissent aujourd'hui le Conseil d'État. Information du journal Le Parisien. Ils veulent obliger les pouvoirs publics et les fabricants à dévoiler les noms des marques de couches concernées par la présence de substances cancérigènes et de perturbateurs endocriniens. Fin janvier, une étude avait révélé la présence de ces produits toxiques.
Avant-dernière semaine du procès Balkany, les juges vont se pencher désormais sur la personnalité des prévenus.
Oui, leur histoire, leur parcours, ça Salomé Legrand suit le procès depuis le début pour Europe 1. Ce qui est certain, c'est que Patrick Balkany est resté parfaitement fidèle à lui-même.
Il y a eu le jour où il a débarqué avec son cigare format barreau de chaise, dépassant de la poche de sa veste et immédiatement planqué par son avocat. Le jour où sa sonnerie de téléphone, les tontons flingueurs, a retenti juste avant le début de l'audience. Il y a eu ses tirades culottées lancées au milieu du prétoire de sa voix de stentor et ses prises de bec avec les avocats des autres quand ceux-ci n'allaient pas dans son sens. Il y a même eu le dialogue avec le Saoudien qui aurait insisté pour lui prêter son avion privé. Dialogue mimé en version originale. Yes, yes, take the plane. Oh no, I have the Royal Air Maroc. Take it, it's nothing. Il y a eu ses commentaires quotidiens en déambulant dans une forêt de micros jusqu'à l'ascenseur menant à la sortie.
C'est quand même extraordinaire même. Ce procès, il se fait en dépit du bon sens depuis le début. Oh, vous savez, ça fait belle lurette que j'ai compris. On était plutôt pris en otage qu'autre chose.
Mais il n'y a eu que peu de réponses aux questions les plus embarrassantes. En revanche, Patrick Balkany se sent, je cite, le porte-parole de tous les Français qui ont un petit matelas de côté.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe. Un accident rarissime et spectaculaire hier soir à New York. Un hélicoptère s'est écrasé sur un immeuble dans le quartier de Manhattan. Le pilote a voulu se poser. Il y avait un épais brouillard. L'appareil s'est crashé. Le pilote n'a pas survécu.
C'était le journal de Céline Kalman. Merci Céline.
Il est 6h07, Julien Pierce.
Dans un instant.